Le mois de septembre est traditionnellement dédié à la prévention des cancers gynécologiques.
Septembre, le turquoise, c'est le mois de sensibilisation à la lutte contre les cancers gynécologiques. Pour parler de ce sujet encore un peu tabou, malheureusement, nous sommes avec le docteur Gwenaël Ferron. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien, membre du comité de gynécologie à l'Oncopole et président de la Société française de chirurgie oncologique. Merci de votre présence ce matin sur les ondes de Radio Présence. Quelques chiffres peut-être pour commencer notre entretien. Combien de patientes atteintes de cancer gynécologique sont prises en charge dans notre région?
Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, on va pas parler, comme dit l'association Imagine, l'association des patientes atteintes de cancer gynécologique. On va parler des cancers du rez-de-chaussée. Ça exclut les cancers du sein. Donc, on va passer parler des cancers.
Sous le nombril.
Voilà, les cancers gynécologiques pelviens. En France, ça concerne 18 000 femmes et en Occitanie, 1 400. 1 400 femmes réparties sur trois pathologies, le cancer de l'ovaire, le cancer de l'utérus et le cancer du col de l'utérus. Ce sont trois organes qui sont très proches, mais avec des histoires complètement différentes et des facteurs de risque et des prises en charge complètement différentes.
Oui, et on va voir justement ces cancers. Alors, on a quand même ceux qui sont actuellement dépistés, le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. En revanche, les cancers de l'utérus, des ovaires, du vagin et de la vulve ne le sont pas. Pourquoi il n'y a pas de dépistage?
Alors, l'intérêt du dépistage, c'est d'aller chercher des états précancéreux que l'on peut traiter et, afin d'éviter l'apparition d'un cancer. Les cancers que vous avez cités, le col, le cancer colorectal, le cancer du sein, on peut aller rechercher soit des précurseurs, soit des petites maladies facilement traitables. D'autres cancers, comme le cancer de l'ovaire, c'est une maladie rare et qui n'a pas de dépistage particulier parce que c'est une maladie qui est malheureusement évoluée dans toute la cavité abdominale dès le début. Vous savez qu'il y a une espèce de drap qui tapisse tous les organes au niveau abdominal qui s'appelle le péritoine. Et en fait, on parle de cancer d'ovaire, mais c'est un cancer de l'ovaire, de la trompe et du péritoine parce que c'est une maladie qui va se disséminer dans toute la cavité abdominale dès le début. Donc il n'y a pas de dépistage possible.
Et donc, ça peut durer des années,
Alors,
le développement?
le développement, probablement non. On pense que c'est un événement grave qui se passe au niveau cellulaire avec l'apparition du cancer et qui, lui, va se disséminer dans toute la cavité abdominale parce que l'ovaire et la trompe ne sont pas recouverts de ce péritoine. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un seul organe qui s'appelle le péritoine.
D'accord.
On sait qu'une partie des cancers de l'ovaire sont par contre liés à une anomalie d'un gène. Le gène BRCA, c'est Breast Cancer, c'est le même gène qui donne la prédisposition au cancer de l'ovaire et au cancer du sein. C'est beaucoup plus fréquent dans le cancer de l'ovaire puisqu'on pense qu'un quart des patients ont cette anomalie de gène. Et donc ça aboutit à un des moyens d'éviter le cancer de l'ovaire, c'est de dépister les familles dans lequel il y a cette anomalie, pour faire une chirurgie de prévention. Cette chirurgie consiste à enlever ovaire et trompe vers l'âge de 45 ans, avant l'apparition du cancer de l'ovaire, puisque c'est une maladie qui arrive plutôt dans les années, après la 7e décennie.
D'accord. Donc ça, ce gène, il est donc, comme son nom l'indique, il est héréditaire, il est génétique, et c'est pour ça que
Tout
vous
à fait.
explorez la famille. Si est-ce qu'on sait pourquoi ces cancers gynécologiques se développent dans notre société aujourd'hui?
Alors, on a parlé des trois cancers les plus fréquents. Si on parle du cancer de l'utérus, par exemple, hein, qui est un cancer qui est quand même relativement fréquent, hein, c'est 3 000 cas par an en France,
Eh oui.
c'est 300 en Occitanie, du corps de l'utérus, pardon, c'est 8 000 cas en France, c'est quasiment 700 cas en Occitanie. Ce cancer, il est de plus en plus fréquent. Pourquoi? Parce qu'il est lié à notre façon de vivre. Le premier facteur de risque, c'est l'obésité.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que la graisse qu'on a sous la peau va continuer à sécréter des hormones et on va avoir un utérus qui, après la ménopause, ne devrait plus avoir d'hormones et va être en fait sous l'influence des hormones sécrétées par la graisse et va petit à petit développer ce cancer. C'est un fléau dans certains pays, dans
Notamment aux
lequel
États-Unis,
l'obésité, aux
j'imagine.
États-Unis, en Roumanie, parce qu'il y a, voilà, en Grande-Bretagne, qui sont des pays dans lesquels il y a beaucoup d'obèses.
Et on
Par
y arrive en
chance,
France, malheureusement.
oui, par chance, en France, pour l'instant, on était protégés. Je ne suis pas sûr que les générations suivantes le soient quand on voit le taux d'obésité qu'il y a chez les jeunes à l'heure d'aujourd'hui. Donc, un des moyens de prévenir ce cancer de l'utérus, c'est de faire très, très attention
L'hygiène alimentaire.
À l'hygiène alimentaire. En ce qui concerne l'autre cancer, qui est le cancer du col, le cancer du col, vous savez que c'est un cancer qui ne devrait plus exister. On a un vaccin actif depuis 20 ans.
Ah oui, c'est vrai.
Ce cancer est lié à une infection, qui est une infection au virus HPV. Ce virus HPV... Alors certes, c'est une maladie qu'on dit sexuellement transmissible, mais ça se trouve partout, donc sur des cuvettes de toilette, sur des endroits pas bien nettoyés. Il est comme le Covid, il est capable de résister 24-48 heures sur une surface. Voilà. Et donc, cet HPV va infecter certaines cellules qui sont à la jonction entre deux tissus. Et comme il y a une jonction de deux tissus, il y a un système de tolérance pour pas que les cellules d'un tissu gagnent sur l'autre, et ce virus profite pour se mettre à cet endroit-là. Et il va petit à petit développer un état précancéreux, puis un cancer. Donc c'est cet état précancéreux que l'on recherche grâce au dépistage. Hein, je vous rappelle que c'est extrêmement important d'avoir ce dépistage. Le dépistage, maintenant, il est enfin simplifié en France, comme dans les autres pays européens, sur lesquels on va aller rechercher le virus. Et si on... Avec ce typage HPV, s'il y a une présence du virus, on va adapter la surveillance avec les frottis. Et ça, c'est intelligent parce que si quelqu'un n'a pas été en contact avec le virus ou a été vacciné, la surveillance sera complètement différente de quelqu'un qui a la présence d'un des virus qui peut donner le cancer.
Oui, voilà. D'accord.
Il faut voir qu'on est très, très en retard en France sur la vaccination. On est le pays le plus en retard de toute l'Europe.
Qu'est-ce qui explique ça ?
Alors, pour vous donner une idée, l'Australie a éradiqué le cancer du col. Éradiqué. Il n'y en a plus. Parce que ça fait 20 ans qu'ils vaccinent garçons et filles. En France, on est encore très loin. On est très loin parce qu'en fait, il y a eu une erreur de publicité au début, on va dire comme ça, sur laquelle on a sexualisé ce vaccin. On a dit aux parents, il faut vacciner vos enfants avant le premier rapport sexuel. En Espagne, 95% des enfants, garçons ou filles, sont vaccinés parce que la campagne, initialement, était de dire, on va faire un vaccin contre le cancer.
Ah
et
oui, c'est
complètement
ça. Donc,
différent.
Donc, de même qu'on se vaccine contre le BCG.
Contre la tuberculose, contre d'autres maladies.
D'accord.
Et même s'il y a un mouvement mondial actuellement contre les vaccins, en particulier aux États-Unis, avec un radical à la tête, les vaccins... C'est la meilleure prévention des cancers HPV induits. Alors, on parle du cancer du col, mais ça touche aussi les garçons. Hein, les cancers du pénis, les cancers de l'anus sont également liés à ce virus HPV. Certains cancers ORL sont également liés à ce cancer HPV.
Ah oui, on se demande un peu comment ça peut aller jusqu'aux organes de l'audition, mais autre raison peut-être pour le cancer de l'utérus, le tabac, non ?
Alors, pour les cancers du col de l'utérus, alors, le tabac n'est pas tout seul. Il a son meilleur copain qui est l'HPV. Voilà.
Ah,
et on sait que l'inflammation liée au tabac va favoriser le développement des pathologies liées à l'HPV. Voilà.
D'accord.
Mais effectivement, le tabac est tellement responsable d'autres cancers qu'il impacte aussi également sur le cancer du col de l'utérus.
D'accord. Donc, ce cancer du col de l'utérus, comment on le soigne ?
Alors, quand par chance on le trouve de façon, sur une forme débutante, ça se traite par la chirurgie.
D'accord.
Voilà. C'est une chirurgie qui consiste à enlever l'utérus ou un peu plus. Il y a des possibilités chez les femmes jeunes avec des toutes petites tumeurs de faire des chirurgies conservatrices de l'utérus. Donc, on enlève le col, mais ça leur permet d'avoir des grossesses par la suite qui ne sont pas toujours des grossesses très simples.
Mais c'est possible.
Oui, c'est possible. Malheureusement, une grande partie des cancers du col à l'heure d'aujourd'hui comme on a un manque de suivi d'une grande partie de la population, contrairement à ce qui se passe dans les pays scandinaves, on a malheureusement en France beaucoup de cancers localement avancés, des tumeurs qui sont déjà relativement grosses, qui se traitent actuellement avec de la radiochimiothérapie, donc des rayons, de la chimiothérapie, et maintenant l'apport également de nouveaux traitements qui sont les immunothérapies.
Ah oui. Oui, ça, on en entend effectivement parler. Le deuxième cancer gynécologique, c'est celui des ovaires. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, puis nous dire aussi comment on le détecte, comment on le soigne, docteur Gwenalferon ?
Alors, le cancer de l'ovaire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cancer rare.
Hein. Ouais,
c'est moins de 5 000 cas par an en France, et sur ces moins de 5 000 cas, il y en a quasiment 30% qui sont des formes rares de cancer de l'ovaire. Ces cancers, c'est un cancer qui est très difficile à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que ça donne des douleurs abdominales. Et quand on est un médecin généraliste, en gros, une personne sur cinq qui vient a mal au ventre. Et faire la part entre avoir mal au ventre pour une pathologie digestive et avoir un cancer de l'ovaire, il faut voir que c'est tellement rare qu'un médecin généraliste en verra un dans sa carrière.
Ouais. Et ça ne peut pas se voir par une prise de sang.
Ça ne peut pas se voir par une prise de sang. Hein. Ouais. Et malheureusement, les patients arrivent souvent avec ce qu'on appelle de la carcinose péritonéale, c'est des implants partout sur ce péritoine avec de l'acide qui est du liquide dans le ventre. Mmh. Voilà. Comment ça se traite ? Ça se traite par une chirurgie et de la chimiothérapie. Mmh. Cette chirurgie est très particulière parce que c'est une chirurgie du péritoine pour laquelle il faut être dans un centre expert pour être pris en charge. On a une loi qui a été publiée en France le 26 avril 2022. C'est Olivier Véran qui l'a signée. Cette loi doit être appliquée au 1er juin 2023. On est maintenant septembre 2025. La loi n'est toujours pas appliquée en France. Cette loi est très simple. On sait que certains cancers, dont le cancer de l'ovaire, la qualité de la chirurgie et la qualité du suivi après l'intervention chirurgicale est tellement important que ça impacte sur la survie. Et donc, il a été établi en France qu'on devait être pris en charge pour un cancer de l'ovaire dans des centres experts.
Voilà. D'accord.
Donc, ces centres experts, malheureusement, ne sont pas encore installés en France. On espère que ça va venir prochainement.
Mmh. Et quelles sont les particularités de ce suivi post-chirurgical ? Qu'est-ce qu'il apporte de particulier ?
Le suivi post-chirurgical, alors après l'intervention chirurgicale, ouais. Il y a la chimiothérapie, puis il y a également des traitements de maintenance. On a parlé tout à l'heure de ces cancers de l'ovaire qui sont liés à une mutation d'un gène familial qui rendent cette tumeur extrêmement sensible à des tout nouveaux médicaments qui s'appellent des inhibiteurs de PARP, hein, qui se représentent une réelle révolution. On parle pour une fois de pouvoir guérir un cancer de l'ovaire, alors que jusque-là, tous les patients récidivaient et tous les patients mouraient de leur cancer de l'ovaire, alors que maintenant, grâce à cette découverte, hein, qui est vraiment un élément important, on peut penser que l'on peut guérir une grande partie des cancers de l'ovaire qui ont cette mutation. Le suivi il va être double, il va être d'aller rechercher ces anomalies familiales.
Ah oui, c'est ça.
Et également d'aller dépister une éventuelle récidive, parce qu'on a maintenant des stratégies un petit peu particulières et des nouveaux médicaments pour ces récidives.
Ouais, donc la recherche avance et c'est effectivement très bénéfique. Dernier grand type de cancer, c'est le cancer de l'endomètre. Est-ce qu'il a des signes qui permettent d'alerter ?
Alors le cancer de l'endomètre, c'est le cancer donc du corps de l'utérus. Ouais. C'est celui qui est lié, dont on parlait tout à l'heure, est lié à l'obésité, au surpoids, au diabète également. Donc les patients diabétiques et obèses sont à surveiller. Le premier signe, c'est le saignement. Un saignement, quelle que soit l'origine, ne doit pas être banalisé. Voilà, un saignement digestif, un saignement gynécologique, un saignement ORL ne doit pas être banalisé. S'il persiste, il faut consulter. Et c'est le premier signe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un épaississement de la muqueuse de l'utérus et qui provoque ces saignements, qui provoque des règles à un âge où on ne devrait plus en avoir. Mmh. Et c'est le premier signe.
D'accord.
Ce cancer de l'utérus se traite bien sûr par de la chirurgie. Il y a également d'autres traitements que sont les rayons, les chimiothérapies en fonction du stade. Ce qui a beaucoup, beaucoup changé, c'est que maintenant, grâce au progrès de l'informatique, on fait beaucoup d'analyses. On va profondément dans les analyses de la tumeur et en particulier, on va chercher des anomalies de certains gènes. Et ces anomalies de certains gènes ont permis de classer complètement différemment ces cancers de l'utérus. Avant, on parlait d'un cancer de l'utérus, mais maintenant, on sait qu'il y en a plusieurs formes.
Ah oui, c'est ça,
et ces formes ont en fait une vie complètement différente, une vie oncologique complètement différente. On a découvert une forme qui ne récidive quasiment jamais, alors que si on se tenait aux analyses d'avant, on pensait qu'elle était à haut risque de récidive. En fait, pas du tout. Et puis, on a d'autres formes qui sont très à risque. On a aussi mis en évidence certaines formes qui sont liées également à une anomalie génétique, qui sont l'association de cancer du côlon et de cancer de l'utérus, ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et dans la mesure où on fait ces analyses systématiques, à l'heure d'aujourd'hui, on découvre plein de familles que l'on ne connaissait pas avec ce syndrome de Lynch. Et pareil, qui permet d'avoir de la surveillance particulière, la surveillance du côlon, la surveillance de l'utérus et faire des chirurgies de prévention d'enlever l'utérus avant l'âge d'apparition du cancer.
Ah oui, c'est ça. Je voudrais qu'on parle, docteur Gwenaël Ferron, des soins de support parce qu'ils font partie de la prise en charge. Qu'est-ce qu'ils permettent exactement ?
Alors, ces soins de support, ils sont effectivement très importants, quel que soit le moment. On a, par exemple, sur ces chirurgies de cancer de l'ovaire, qui sont des chirurgies très particulières, c'est un réel marathon pour les patients. Donc, il faut les préparer. Souvent, on commence par la chimiothérapie pour des patients fragiles. Et pendant cette chimiothérapie, c'est un peu paradoxal, on va les mettre à faire de l'activité physique. On va améliorer leur nutrition pour les amener petit à petit, comme quand on se prépare à un marathon, les amener à être en forme pour arriver sur une intervention chirurgicale. C'est ce qu'on appelle la préhabilitation physique et nutritionnelle. Et puis c'est d'être pris en charge par des coachs sportifs, des nutritionnistes, des sexologues, hein, parce que reprendre une vie sexuelle après un traitement d'un cancer gynécologique, c'est pas facile, et qu'on a la chance à l'Oncopole d'avoir des sexologues qui permettent d'aider les patients à reprendre confiance en soi.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Différentes propositions sont faites à l'occasion de Septembre Turquoise. Je signale la journée du 23 septembre après-midi à l'Oncopole pour les patientes et les aidants. Des conférences, des échanges avec les professionnels des soins de support. Et puis pour les personnes connectées via Facebook ou Instagram, il y a une vidéo sur les cancers gynécologiques qui est publiée chaque lundi de septembre. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Je vous remercie beaucoup, docteur Gwenaël Ferron.
Merci.
Et je rappelle que vous êtes chirurgien, membre du comité de gynécologie à l'Oncopole et président de la Société française de chirurgie oncologique. Merci.